encore à prendre un petit prophète qu'on a commencé dernièrement. Donc il s'agit de, vous vous rappelez, c'était Osée? Non, Joël? Non, je crois pas. C'était Jonas. Jonas, voilà. C'était il y a 2 semaines déjà, je crois. Ou 3, je ne sais plus. Hein. On avait commencé avec le prophète, le petit prophète Jonas. Et on avait dit que le thème du livre, hein, de la prophétie de Jonas, enfin, petit prophète, c'est plus une histoire. On avait même souligné que c'était plus une histoire un peu narrative qu'une prophétie comme ce qu'on trouve dans d'autres petits prophètes, comme ce qu'on trouve dans Habacuc ou autre. Et puis le thème, c'est qu'est-ce qu'on avait retenu comme thème, vous vous rappelez un peu de ce livre? On avait dit que ce n'est pas la baleine, même si on pense beaucoup au grand poisson, mais c'est le thème de la... De quoi? Quelqu'un peut me dire un peu? Voilà, de la miséricorde et de la souveraineté de Dieu. C'est ce que l'on voit, et surtout en matière de salut, hein, puisqu'il est beaucoup question de salut et de repentance dans ce livre. Hein. Est-ce qu'on peut essayer de se les rappeler? Qui sait? Où est-ce qu'on voit de la repentance ou l'œuvre du salut un peu dans ce livre? Est-ce que vous vous rappelez déjà? Les Ninivites, voilà, les Ninivites qui se repentent. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres lieux où on voit encore? Le premier chapitre, il est question des marins, des mariniers, on pourrait dire ça, hein, des mariniers quand même, hein, ils expriment quelque chose, hein, à Dieu, hein, ils font des sacrifices même, il est dit. Et donc voilà, on trouve cela. Et puis, est-ce qu'on trouve la repentance de Jonas? La repentance du poisson? C'est ce que tu as dit? Et qui a vomi Jonas, c'est ça? Il s'est repenti de l'avoir avalé. C'est possible. Hein? Bon, je ne sais pas ce que ça va lui apporter comme bienfait, mais poisson. Mais on va essayer de voir ça. Donc, aujourd'hui, on va voir donc, le chapitre 2. Tout le chapitre 2 est intitulé la prière de Jonas. Donc on va lire ça ensemble. Et puis on va essayer de... Ce qu'on va faire, c'est de voir un peu dans cette prière, quelles sont les caractéristiques de cette prière et quelles leçons on peut tirer aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été aussi pour notre instruction, nous dit la parole de Dieu. Alors on va lire Jonas chapitre 2, verset 1. Alors suivant parfois les versions que vous avez, je crois que le chapitre 1 va jusqu'au verset 17. Je ne sais pas si quelqu'un a une version comme cela. Et puis, fini donc au verset, le chapitre 2 finit au verset 10, hein, qui est le verset 11. Hein, mais moi, j'ai 16 versets dans le premier chapitre, et donc on lit à partir du verset 1 du chapitre 2. Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria. Il pria l'Éternel son Dieu, et il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Voilà, donc jusqu'ici, ce texte. Que parfois certains trouvent impossible, parce que voilà, poisson ne peut pas avaler quelqu'un. Il y en a qui disent que c'était une baleine. La baleine, ça ne mange pas des gros insectes comme ça. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de cette histoire, souvent. Et peut-être pour les enfants, c'est intéressant, dans les écoles du dimanche. Mais il y a beaucoup de gens qui rejettent la véracité de ce qui a pu se passer ici. Je lisais et pourtant il semble que dans l'histoire, il y a au moins peut-être quelques cas où ça a été rapporté que des poissons, des grands mammifères, ont avalé un être humain. Donc, ça n'est pas fréquent, mais c'est déjà arrivé, semble-t-il. Et quand vous cherchez ça, vous trouvez des histoires qui sont racontées de temps ancien, parfois, où la chose a pu se passer. Bon, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, je pense que ça ne nous pose pas de problème, parce que nous savons que Dieu est le Dieu des miracles et qu'il peut faire toutes choses. S'il peut parler à un poisson et que le poisson obéisse, il peut faire en sorte qu'un grand, un gros poisson... Alors, j'ai passé un petit peu de temps à regarder hier soir un peu sur Internet les grands, les gros poissons. Donc, il y a la baleine... Je sais pas comment j'avais vu ça, là. Il y a un nom de baleine, là, qui est relativement grand, comme un grand cachalot. Hein. Ou sinon, il y a aussi le requin... Le requin ? Pèlerin ? Ouais, peut-être. C'était celui-là. Il y avait un autre nom, il me semble que j'avais... Un autre nom, ouais, quelque chose comme ça, voilà, qui peut avaler, un qui a une bouche très large et qui ne mange que des petites crevettes, hein, mais quand sa bouche est ouverte, ça fait plus de 1 mètre de diamètre, même plus, beaucoup plus. Donc, on n'a pas dit que c'est ce poisson qui a avalé Jonas, mais bon, on a même là des animaux qui existent et qui sont très longs, qui pourraient relativement engloutir un être humain. Alors, il me semble que l'histoire néanmoins de Jonas, même si ça commence ici dans ce chapitre 2 avec l'Éternel fit venir un poisson pour engloutir Jonas, et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas, c'est pas le cœur de l'histoire qui est raconté. Même si ce que on a lu s'est enchâssé entre l'histoire du poisson qui avale Jonas et l'histoire du poisson qui vomit Jonas. Et je pense que le miracle que Dieu veut, sur lequel Dieu veut qu'on porte nos yeux est ailleurs. Il est ailleurs. Il n'est pas dans... même si on ne veut pas éluder d'un revers de la main, que c'est un miracle que Dieu a accompli, que le poisson se soit trouvé là au moment où Jonas tombe dans l'eau, c'est déjà un miracle. Là, est-ce qu'il a attrapé pendant qu'il tombait dans l'eau, avant qu'il arrive, etc. Bon, d'après ce qu'il dit... Peut-être pas, peut-être ça s'est passé quelques instants après, on ne sait pas. Mais certainement, il est évident que pour nous, ici, l'important est ailleurs. L'important est dans la prière de Jonas et dans l'exaucement que Dieu apporte à cette prière. La prière de Jonas et l'exaucement. Alors, si on regarde le verset 3, par exemple, ici, verset 3, on a l'impression que Jonas... résume un peu sa prière, quelque part, son expérience. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » D'accord ? Et donc, voilà ce qu'il dit, on pourrait dire, en résumé à sa prière. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a demandé à Dieu, dans lequel Dieu a exaucé ici? Mettez-vous à sa place. Hein? De le secourir, de le délivrer de la gueule, pas du lion, mais de la gueule du poisson, de l'estomac du poisson. Ça ne devait pas être agréable là-dedans. Hein? Hein? Ce n'est pas qui c'est qu'il a trouvé comme compagnie non plus là-dedans, mais ouais, ça ne devait pas être très à l'aise. Oui, d'autres? De le sauver de cette situation. On se pose la question de savoir, est-ce que Jonas vraiment s'attendait à être sauvé forcément du poisson? Quand on lit toute sa prière, on n'a pas, c'est après coup qu'il écrit quand même un petit peu, hein, mais ici il dit pas, quand même, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein de séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix, il dit, hein. Et donc il dit pas tu m'as, à plus tard il le dit, hein, mais tu m'as enlevé de la gueule du poisson, j'ai demandé à ce que tu me délivres du poisson et tu m'as demandé du poisson. Il n'y a rien qui montre que sa prière était dans ce sens-là vraiment. Ce n'est pas vraiment indiqué. Il a peut-être demandé cela, mais on ne peut pas l'affirmer à 100%. Ce qu'on peut comprendre quand même, c'est qu'il est dans une attitude où il prie Dieu, il prie l'Éternel son Dieu. Le verset 2 dit « Il prie à l'Éternel son Dieu ». Et puis, dans sa détresse, il invoque le nom de l'Éternel. Et du séjour des morts, il dit « J'ai crié et tu as entendu ma voix. » C'est comme s'il exprime quelque chose dans le sens où il crie à Dieu et il est entendu de lui. C'est presque relationnel, quoi, quelque part. C'est pas simplement qu'il est entendu, que Dieu l'a rejeté sur le bord du rivage, mais c'est que jusque-là, il était, n'oubliez pas, il était dans la désobéissance, hein. Il fuyait loin de la face de l'Éternel, hein. Et plus tard, il dit au verset, je crois que c'est au verset 5, il dit « Je disais, je suis chassé loin de ton regard. » Tu vois? Et maintenant, il dit « Mais je verrai encore. » Il se rend compte « Maintenant, je verrai encore ton saint temple. » Donc, quand il a été jeté, il était dans une espèce de rébellion ici. Et après, on a l'impression que quand on lit sa prière, il y a quelque chose qui change en lui, une attitude qui change, qui fait qu'il crie à Dieu et il dit « Tu m'as exaucé et tu as entendu ma voix, tu as écouté ma prière. » L'exaucement, ce n'est pas forcément le fait d'avoir sa situation physique qui change, hein, mais c'est de savoir que cette relation, peut-être que lui-même pensait peut-être rompue, coupée, existe, hein, et que Dieu a été là. Je pense qu'on le voit, on peut revoir ça un petit peu plus tard dans la suite. Alors, je pense que le verset 3 semble être un petit peu un résumé. Puis les versets 4 à 8, on voit quand même qu'il exprime l'état, son état d'âme ou sa détresse, vraiment, hein. Donc, on va peut-être relever ensemble quelles sont les choses qui montrent qu'il était vraiment en détresse ici. Donc, il utilise le mot détresse ici, mais il y a d'autres choses tout au long, donc jusqu'au verset 8, par exemple. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? À partir du verset 3, par exemple, hein, jusqu'au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Quels sont les mots, les choses qui expriment vraiment son état d'âme et sa détresse? Il parle de l'abîme. Hein, l'abîme, c'est vraiment la mer. Je vais regarder, c'est la mer profonde, hein, c'est un mot qui traduit la mer profonde, hein. Il était dans une situation, dans des circonstances vraiment difficiles. On ne sait pas s'il savait nager, hein. Ça devait être compliqué, hein. On peut penser avoir les pensées imaginer les pensées que l'on a quand on est dans une telle situation. Oui, il parle de l'abîme, il parle de quoi d'autre? Le séjour des morts, hein. Le séjour des morts, c'est vraiment le lieu, souvent dans l'Ancien Testament, des morts, hein, de non-retour. Hein. Donc pour lui, il se considérait, fini. Hein. C'était fini. Hein. Ici, il allait mourir dans le ventre du poisson, il ne s'attendait pas à être délivré dans le ventre du poisson. Hein. Il allait digérer, et puis voilà, quoi. Hein. Ouais. Donc qu'est-ce que l'on trouve encore ici? La fosse, tu as délivré mon âme de la fosse, voilà. Quoi d'autre que vous voyez? Voilà, loin du regard de Dieu. Il dit qu'il avait sa tête couverte de, emmêlée dans les roseaux. Hein, quelque part, il dit ça. Hein. Le verset 6, les roseaux ont entouré ma tête, ici. Il dit, les eaux même m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Hein. Alors, jusqu'à m'ôter la vie, est-ce que ça veut dire qu'il est mort vraiment? C'est une question qu'on discutait en famille la dernière fois. Est-ce qu'il est mort et Dieu l'a ressuscité? Il y en a qui pensent cela, ou est-ce que... Il était vivant, il exprime simplement le fait qu'il est allé au bord, à la limite. Mais je pense que c'est ça, il est allé au bord, à la limite, parce qu'il est dit, dans le ventre du poisson, il a prié. Donc, c'est dans le ventre du poisson qu'il prie, et dit que Dieu l'a exaucé dans cette prière. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on trouve encore? Les racines, je suis descendu jusqu'au, verset 7, racines des montagnes. Il dit, les barres de la terre m'avaient enfermé pour toujours, m'enfermait pour toujours. Il y a vraiment cette pensée que c'était fini hein, pour lui. C'était complètement fini. Hein. Il ne s'attendait pas à remonter sur le rivage. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore? Alors, on a dit la fosse. Hein. Est-ce que j'avais noté autre chose? Il parle même du courant, quelque part. Le courant, c'est verset 4. Hein. Voilà, les courants d'eau m'ont environné. Hein. Il ne pouvait rien faire. Il était vraiment... emporté dans cette tempête. Donc, il exprime clairement quel était son sentiment. Hein. Comment il a... Pour lui, il était comme... C'est comme s'il était en enfer. C'était perdu, là, un peu. Il n'y avait plus d'espoir. Rien du tout. Rien du tout à cause de sa propre désobéissance. Et même intérieurement, il parle de... Au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Mon âme était abattue au-dedans de moi. » Et puis, on l'a dit tout à l'heure, le sentiment aussi d'être... chassé loin du regard de Dieu, loin de là où le regard de Dieu se pose et où il pourrait nous voir, où il pourrait venir nous secourir. C'est comme s'il était hors d'atteinte du secours de Dieu parce qu'il était hors de sa vue, un petit peu. Et donc, c'est un peu le sentiment qu'il exprime ici. Et on peut imaginer ce que c'est. Hein. Enfin, peut-être on peut imaginer un petit peu, pas beaucoup, hein, mais ce que c'est comme détresse de savoir qu'on est... que c'est fini. Hein. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour les gens qui sont descendus dans le petit vaisseau là pour aller visiter le Titanic. C'était au mois de juin, je crois, de l'année dernière, ou juillet, je ne sais plus. Et puis qui sont morts, hein, parce qu'ils sont descendus dans les profondeurs. Là, c'était vraiment dans les abîmes. Hein. Il n'y a pas de lumière, c'est noir. Hein. On descend dans les profondeurs. Et certainement, à un moment donné, ils ont eu conscience que ça descendait trop, qu'ils n'allaient pas pouvoir... diriger les choses, hein. Mais ça devait être dans la fraction de seconde terrible comme pensée hein, de ce qui va se passer. On est loin, le rivage il est à 4 km au-dessus de la tête, c'est terrible. Hein. Donc Jonas n'était pas à 4 km certainement, mais quand même il était dans une situation où il était en grande détresse physique et son âme même était ébranlée ici. Et puis quels sont quand même, quand on lit cette prière, ça c'est son l'expression de sa détresse. Mais quand on lit quand même sa prière, hein, qu'est-ce que l'on voit dans sa pensée, dans ce qui change en lui? Est-ce qu'on peut noter des choses? Qu'est-ce qu'il reconnaît ici, concernant Dieu, par exemple, on peut voir dans sa prière? Voilà, verset 3 déjà, il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et tu m'as exaucé. » Dieu est celui qui l'a exaucé, d'accord, qui a entendu sa voix. Donc, et ensuite, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Tu m'as jeté dans l'abîme. Il dit pas, les marins m'ont jeté dans l'abîme. Hein? Les marins l'ont mis dans la mer, mais Dieu l'a jeté dans l'abîme. C'est pas tout à fait la même chose. Là, je pense qu'il parle de cette espèce d'abîme à la fois physique, mais spirituel aussi, hein, où son âme a été troublée. Et pour lui, c'est Dieu qui a fait ça. Hein? Donc, on pourrait dire quoi ici? De quoi, ça s'appelle comment ça? Il parle du fait de la souveraineté ou de la providence de Dieu sur toute chose. Ce qui lui est arrivé, même si c'est à cause de son péché, c'est Dieu qui a dirigé ces choses. Et il le dit à plusieurs endroits. Il dit dans le même verset, « Toutes tes vagues sont passées et tous tes flots sont passés sur moi. » Ici. Donc c'est intéressant de considérer là qu'il reconnaît la main de Dieu dans tout ce qui lui arrive. Il ne blâme pas les circonstances, mais il dit pas « c'est faute, t'as pas de chance hein. ». Ça aurait pu bien marcher, je suis parti là-bas, bon, il y a eu une tempête, j'aurais pu ne pas avoir de tempête, et puis je serais arrivé à Tarsis comme si de rien n'était. Il dit pas ça. Il dit « la main de Dieu était sur moi ». C'est comme s'il disait ça. Il attribue les choses, on pourrait dire, à la providence et à la souveraineté de Dieu. Pour lui, tant la venue du poisson était quelque chose salutaire, on pourrait dire ça, il y avait une venue salvatrice du poisson, je dis ça comme ça, et il trouve aussi que Dieu a envoyé, c'était ce poison dans sa vie, cette étape, cette détresse, et ça venait aussi de Dieu. À la fois le poisson venait de Dieu, mais le poison aussi venait de la part de Dieu. Et on se souvient que ce n'est pas le seul à s'exprimer comme cela dans la Bible. Job s'est exprimé de la même manière. Naomi s'est exprimé de la même manière. David s'est exprimé de la même manière. Je vous lis juste les versets. En Job 6, verset 4, il est dit, Job dit, « Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. » Quand il était dans cette maladie atroce, il dit, « Ce sont les flèches du Tout-Puissant qui m'ont percé. » En Ruth, chapitre 1, verset 21, il dit, « J'étais dans l'abondance, elle dit, Naomi qui dit cela, j'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Il dit, « Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que la main du Tout-Puissant m'a affligé ?» Intéressant de voir comment considère les choses. Et puis David lui-même, il dit, ça ressemble à ce que dit Jonas ici, Il dit, « Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. » Dans Psaume 38, verset 2. « Tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. » Et donc, ce sont des hommes qui, quand ils sont dans une situation difficile, même parfois concernant Jonas, même parfois quand c'est à cause de sa désobéissance qu'il se trouve dans cette situation, il dit néanmoins que la douleur, l'état, la détresse, l'abîme dans lequel il est plongé, ça vient de l'Éternel. Il dit ça vient de l'Éternel. Ce sont les vagues de Dieu, c'est lui qui l'a jeté ici, comme font les autres. Et Dieu lui-même se présente aussi comme cela dans la Bible. Si on lit Ésaïe chapitre 45, versets 6 et 7, il dit « Afin qu'il sache, depuis le lever du soleil, et depuis le couchant, qu'il n'y en a point, il n'y a point de Dieu hors de moi. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres. Moi qui fais la prospérité et qui crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Et c'est quelque chose que je trouve dans la prière de Jonas qui est importante pour nous de considérer. On n'a pas de difficulté à attribuer le bien qui nous arrive à Dieu. Mais Dieu dit qu'il est à la fois, il fait les choses, il dit j'envoie la calamité, ici d'autres traductions disent la calamité, il dit j'envoie la lumière, j'envoie les ténèbres, je fais la prospérité, mais aussi je crée le malheur. Il dit moi l'Éternel, je fais ces choses. Je fais ces choses. Et souvent dans la Bible, on voit des histoires où Dieu dit « J'ai envoyé ceci, j'ai envoyé les ténèbres, j'ai envoyé la peste, et vous n'êtes pas revenu. » On avait vu ça dans le livre de Joël, mais on le trouve aussi dans le livre de Agé, dans le petit prophète Agé, où Dieu dit qu'il fait ces choses qui sont douloureuses. Mais souvent, on est plus prêt à blâmer les circonstances, prêt à blâmer parfois quelqu'un d'autre, que de dire « Bon, Dieu, tu permets cela dans ma vie. » Peut-être même tu l'envoies, comme disait David, hein, il dit c'est Dieu qui lui a dit de dire ça, laisse-le. Il y a cette idée qu'il ne faut pas qu'on évacue ça d'un revers de la main, que l'on accepte aussi que Dieu est souverain sur toute chose et sur tout ce qui se passe dans notre propre vie, et que sa main n'est pas loin, hein, n'est pas loin, parce que c'est un Dieu, on le voit ici, de grâce, qui veut aussi secourir. Donc Jonas reconnaît la souveraineté de Dieu dans ce qui lui arrive, mais même aussi dans le salut. Regardez au verset 11, verset 10, qu'est-ce qu'il dit ? Le salut vient de l'Éternel. Il estime probablement que lui, dans la situation où il était, il ne méritait que la mort. Hein. Et puis il dit, mais le salut vient de l'Éternel. Pourquoi ? Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Quand je regarde au verset 8, il dit, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, il dit, je me suis souvenu de l'Éternel, et puis, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Comment sa prière a-t-elle pu parvenir à Dieu ? Est-ce que c'est parce qu'il a crié de toutes ses forces ? Est-ce que c'est parce qu'il a été, sincère ? La Bible ne le dit pas, hein ? Mais on a, quand on lit ce passage, le sentiment que la prière parvient parce que Dieu la laisse parvenir. C'est comme, je crois que c'est dans Jérémie où Dieu dit, « Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. » Comme si Dieu se laisse atteindre ici. Donc c'est quelque chose qui montre que ça vient de Dieu lui-même. Hein? C'est Dieu qui va vers Jonas et qui ouvre la bouche du poisson, qui le fait avaler, qui le maintient dans ce petit espace pour qu'il vive, etc. Dieu, il est là. Hein? Et il se laisse atteindre par Jonas. Et je trouve quand il dit « Ma prière est parvenue jusqu'à toi », on sent bien que ce n'est pas parce qu'il a bien prié, parce qu'il a bien exprimé les choses, parce qu'il a trouvé les bons arguments pour convaincre Dieu. Non, c'est parce que Dieu s'est laissé atteindre. Hein. Il y a un psaume dans lequel il dit, je crois que c'est le 44, il dit « Tu ne donnes pas accès à ma prière. Hein. » Pour que notre prière atteigne Dieu, il faut que Dieu donne accès à notre prière. Et il la donne par Jésus-Christ, hein, il dit « Approchez-vous de lui hein, », on s'approche de Christ, c'est en vertu de Christ que l'on s'approche de Dieu, mais c'est Dieu qui nous donne aussi cet accès. Donc ça c'est, je pense, quelques éléments, on pourrait dire beaucoup plus de choses, mais de la pensée de Jonas ici. On peut voir aussi, je crois, la transformation qu'il y a dans Jonas. Est-ce que vous avez quelques éléments qui montrent qu'il y a quand même un changement de cœur du côté de Jonas ? Premier indice, facile à trouver, hein. Verset 2, il prie. Le fait de prier, hein, le fait de prier. Vous vous rappelez quand il y avait la tempête dans le bateau, que faisait Jonas ? Il dormait au fond de la cale, hein, et les mariniers sont allés le chercher. Et quelle a été qu'est-ce que les mariniers lui ont dit ? Pourquoi dors-tu, hein ? Que fais-tu là, dormeur ? Ils ont demandé quoi ? Vous vous rappelez ? Regardez au verset chapitre 1 et au verset 6. Il dit quoi ? Pourquoi dors-tu ? Ensuite, ils lui disent quoi ? Lève-toi et prie ton Dieu. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Alors, on ne sait pas s'il a prié, mais la Bible ne dit pas qu'il a prié ici. D'accord ? Et là, par contre, dans le ventre du poisson, il dit « Jonas, dans le ventre du poisson, pria. » Et je pense que ça note un changement quand même qu'il y a dans le cœur. Sa prière montre un changement. Le fait de prier même, ça témoigne de changement dans la vie des gens. L'apôtre Paul, lorsqu'il a été touché sur le chemin de Damas, vous vous rappelez de cela ? Eh bien, la Bible dit que Dieu apparaît à Ananias, et puis Dieu envoie Ananias auprès de Paul, et il dit à Ananias, va dans la rue, etc., tu trouveras un nommé Saul de Tarse, car il prie. C'est intéressant, il dit que Dieu souligne juste le fait que Paul est en train de prier ici. Alors on ne sait pas si ça a aidé à calmer la crainte d'Ananias, mais le changement se manifeste aussi par le fait qu'on témoigne de sa dépendance à Dieu dans la prière. Jonas, là on sent ce changement dans le sens qu'il se met à prier. Et puis aussi, on pourrait dire, si vous lisez bien, je ne sais pas si vous avez une Bible avec des parallèles là, ici, dans beaucoup de versets, si vous avez des parallèles, vous allez voir que ce qu'il dit, souvent, c'est quoi? C'est des citations des psaumes. Il cite beaucoup les psaumes. Donc c'était un homme de Dieu qui avait de la connaissance, il connaissait les psaumes, mais sa prière même est forgé à partir des psaumes. Même si, bon, c'est quelque chose qu'il écrit, on peut penser par la suite, mais il exprime ses pensées, ses sentiments à partir des psaumes. Il s'appuie même sur le psaume pour formuler sa prière. Quand il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. » Ce n'est pas la première fois que vous avez entendu cette phrase, n'est-ce pas? Vous entendez que on a déjà entendu ça quelque part. Et oui, Psaume 34, il y a ça. Et puis, moi, j'ai trouvé, il y a dans plusieurs endroits, hein, oui. Et j'ai trouvé dans le psaume 50, où c'est un ordre même que Dieu donne. C'est Dieu qui parle dans le psaume 50. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Et c'est ce que Jonas fait. Hein. Il invoque, Dieu le délivre et on voit à la fin, il glorifie Dieu quand même. Hein. Et donc, on pourrait dire que... on sent que la pensée de Dieu le guide ici dans cette prière. Et puis dans le même psaume au verset 14, psaume 50, verset 14, ce que Jonas exprime au verset 10 quand il dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce et j'accomplirai des vœux, les vœux que j'ai faits. » Et vous lisez le psaume 50, verset 14, il est écrit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » C'est comme s'il dit « Voilà ce que la Bible me demande de faire, voilà ce que je fais. » Et il exprime cela dans sa prière. Et donc, on n'a pas le temps de voir tous les versets, mais partout, vous pouvez faire ça, le travail à la maison. Si vous avez en plus une Bible avec des parallèles, vous allez les voir. Hein. C'est vraiment émaillé de passages de plusieurs psaumes dans ce qu'il dit dans sa prière. Il dit « Comme mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. » Et on peut penser que quand il dit ça au verset 8, de quoi est-ce qu'il se souvient de l'Éternel? Eh bien, il se souvient des paroles de l'Éternel. Il se souvient des paroles de David. Il se souvient de toutes ces choses. Et c'est comme cela qu'il est transformé, que son cœur change et qu'il se tourne vers Dieu. Mais on peut voir aussi, donc il prie, il s'appuie sur la parole, et est-ce qu'il reconnaît son péché? Est-ce qu'il y a quelque part où on voit qu'il reconnaît son péché? Peut-être, je pensais peut-être au verset 9. Hein, vous avez un autre? Oui. Mais au verset 9, il dit... Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, c'est comme une confession quand même ici un peu, éloignent de la miséricorde. Mais pour moi, il dit, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Vous vous rappelez au chapitre 1, regardez au chapitre 1 et au verset... Je n'ai plus sous les yeux. Peut-être que vous avez trouvé pour un moment. Verset 10, je crois, non. Quand les mariniers ont eu peur, quand ils ont jeté Jonas ici. Voilà, verset 16. Il dit, ces hommes furent saisis de crainte, de la crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des et firent des vœux. Et souvent, on pense que là, ils ont exprimé quelque chose qui montre qu'ils ont une... Et la Bible dit d'ailleurs qu'ils ont une crainte de l'Éternel, que cela exprimait probablement le changement d'attitude, le changement de cœur, hein, la reconnaissance de ce qu'ils sont devant Dieu. Et Jonas dit quasiment la même chose au verset 11, 10. Vous voyez, hein, il dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec action de grâce et j'accomplirai mes vœux. » Les mariniers, ils ont offert un sacrifice et ils ont fait des vœux. Et Dieu demande dans le psaume 50, il dit « Offrez des sacrifices et accomplissez vos vœux à l'égard de l'Éternel, sacrifice de louange. » C'est une manière qui dit vraiment ce que l'on fait quand on se tourne vraiment vers Dieu. Hein. Le sacrifice, alors je ne sais pas si là ils ont fait, les mariniers, un sacrifice sanglant, hein. Peut-être, on ne sait pas, la Bible ne le dit pas clairement ici, mais pas mal de commentateurs pensent qu'ils ont dû offrir quelque chose, qu'ils avaient cette notion qu'il fallait offrir un sacrifice pour s'approcher de Dieu. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu sans sacrifice. Hein. Jésus-Christ est notre sacrifice par lequel nous nous approchons de Dieu. Donc on peut penser ici, je crois que c'est clair ici que Jonas, quand même, il reconnaît que ceux qui s'éloignent, verset 9, hein, que ceux qui s'attachent aux idoles, ils éloignent de la miséricorde. Ça fait penser à Ésaïe 59 qui dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu et l'empêchent de vous aimer. Donc ceux qui s'attachent à des idoles, il avait des idoles du cœur, lui, là, ici, hein, vers lequel il courait, ça l'a éloigné de Dieu et il a senti cette miséricorde qui s'éloignait, en tout cas selon lui, et il le confesse ici. Hein. Donc on pourrait voir ici qu'il y a l'expression d'une confession de son péché. Donc on pourrait conclure en disant ici, hein, que cette prière nous apprend quand même beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses concernant pour nous, hein, comment nous devons prier. Peut-être lorsque nous sommes dans la détresse, dans les difficultés, ça n'est pas toujours facile, mais on peut exprimer notre détresse à Dieu. Hein, on peut exprimer comment on ressent les choses. On peut trouver les mots pour exprimer notre état d'âme. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Mais une seconde chose que l'on voit aussi, je crois ici, c'est qu'il est extrêmement important de bien connaître la parole de Dieu, parce qu'on voit que ce qui exprime le mieux notre état d'âme, ce n'est pas nos innovations à nous-mêmes, mais ce sont déjà les choses qui sont exprimées dans la parole de Dieu, les psaumes. Hein. Jonas utilise les psaumes, un peu comme Marie, dans sa prière, vous rappelez, avait utilisé beaucoup de versets de l'Ancien Testament. Pratiquement chaque verset est une citation de l'Ancien Testament, et c'est comme ça qu'elle exprimait sa joie, sa reconnaissance à Dieu. Et donc, un cœur, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de connaître la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va nous soutenir quand on sera dans les moments de détresse. Même dans les moments de détresse, on aura peut-être qui seront dus à cause de notre propre faute, on aura besoin de la parole de Dieu, qu'elle revienne à notre esprit, pour qu'on puisse exprimer vraiment, ne serait-ce que notre péché, notre reconnaissance, notre demande de pardon. Tout ce que l'on doit faire, hein, c'est la parole de Dieu qui va nous y guider ici. Je crois que, je le disais tout à l'heure, hein, la présence du poisson, de la vie de Jonas qui était maintenue dans le poisson, tout cela, c'est bien un miracle. Mais ce que Dieu voulait nous faire voir ici dans ce passage, ce que Dieu veut nous montrer dans ce passage, je crois que c'est le miracle qu'il opère aussi dans le cœur de Jonas. On a vu la repentance des mariniers, plus tard on verra la repentance des Ninivites, mais je crois que là on voit la transformation d'un Jonas, hein, qui dit « J'accomplirai les vœux que j'ai faits ». On peut penser, certains pensent que ce qu'il est en train de dire, c'est que je ferai ce que Dieu m'a demandé de faire. Parce que le verset 3 commence, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Jonas se leva et alla à Ninive. » D'accord ? La première fois, il se lève, il va ailleurs. La seconde fois, il se lève, il va à Ninive. Même si après, il y a des rebondissements. Mais là, il y a une disposition qui est différente. Et c'est ça que le passage veut nous montrer ici, je crois. Plus que le poisson a avalé Jonas et que le poisson a vomi Jonas. Le miracle vers lequel Dieu veut attirer notre attention, c'est celui du changement que Dieu opère dans un cœur. Parce que c'est Dieu qui poursuit Jonas pendant tout ce temps-là. Et je l'ai dit, qu'est-ce qui vient au secours de Jonas? Donc, je l'aurais dit rapidement, c'est vraiment ce qu'il a comme connaissance de la parole de Dieu. Si on n'a pas de connaissance de la parole de Dieu, on sera vraiment démuni, sans force. Dernier point que je voulais souligner, c'est que Jonas dit « J'accomplirai les vœux que j'ai faits » dans sa prière. Lorsqu'on est dans une situation parfois difficile, on dit à Dieu « Si tu me sors de là, je te promets, je vais te donner ci, je vais te donner ça. » Et on fait des vœux, des promesses, on pourrait dire des vœux. Hein. Jonas, il dit « J'accomplirai les vœux que je t'ai fait. » Dieu dit « Accomplis les vœux que tu fais envers le Très-Haut. » Et on est dans ce début, encore ce dernier jour presque de cette année où on fait des vœux. Hein. J'ai envie de dire quels sont les vœux que nous avons formés? Peut-être nous ne sommes pas dans la détresse, mais peut-être que nous avons vécu une année, nous avons dit, nous nous sommes dit, ouais, elle n'était pas si glorieuse que cela. Ouais, je n'ai pas vraiment été comme j'aurais dû être. Je n'ai pas servi Dieu comme j'aurais dû le servir. Je ne me suis pas engagé comme j'aurais dû m'engager pour servir le Seigneur. Et on se repent et on dit, Seigneur, cette année, voilà comment je voudrais agir par ta grâce et par ta puissance. On fait comme Jonas. Et on dit, je voudrais pouvoir accomplir les vœux que j'ai faits. Quels sont les vœux que nous avons faits? Je ne demande pas de les dire là, mais quels sont les vœux que nous avons faits? Eh bien, le passage ici nous pousse à prendre l'engagement d'accomplir les vœux que nous avons faits à l'égard de l'Éternel. Dieu lui-même, psaume 50, verset 14, je dis, il le dit, il dit, accomplis les vœux que tu as faits à l'égard de l'Éternel, comme Jonas. Et certainement, il l'a fait, bon, probablement, il est allé à Ninive, il a accompli ce qu'il avait à accomplir, mais nous aussi, nous avons à accomplir ce que nous formulons souvent comme vœux. On peut le faire dans une réunion, à la suite d'une prédication, dans une réunion d'évangélisation, dans beaucoup de choses. Et puis, vous savez comment c'est, hein, on est plein de bonnes dispositions, et puis quelques jours après, ça retombe. On a envie d'apprendre des choses, de mémoriser ceci, de faire beaucoup de grandes choses, de témoigner ici, de témoigner par là. Et on promet à Dieu qu'on va le faire, et puis parfois, ça peut retomber. Qu'on demande au Seigneur vraiment la grâce de pouvoir accomplir nos vœux. Je crois que ça, c'est une chose qui est importante. Jonas, il a dû formuler ça dans son cœur quand il était dans le poisson et il a dit, je l'accomplirai. J'accomplirai ce que j'ai mis dans mon cœur devant l'Éternel. Bien sûr, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, mais nous avons besoin néanmoins de maintenir les engagements que nous prenons et de servir Dieu de cette manière-là. Voilà, que cela nous encourage. On pourrait dire beaucoup d'autres choses de cette prière de Jonas, mais je crois qu'elle nous montre comment Dieu transforme son serviteur qui a sa parole dans son cœur. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Voilà, nous allons prendre quelques sujets de prière et puis